Le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, les principaux titres de cette édition du magazine des Nations Unies. Justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Bintou Keïta exhorte les populations congolaises à s'engager massivement dans les consultations populaires en matière de vérité, justice et réconciliation. La représentante spéciale a lancé cet appel à l'occasion de la 51e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Vous entendrez la chef de la MONUSCO dans cette édition. Crise humanitaire en République démocratique du Congo, cri de détresse de la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Madame Angèle Dikongwe Antangana a réuni au siège de cette agence à Kinshasa les bailleurs pour leur expliquer et montrer la gravité de la situation face aux besoins humanitaires toujours croissants au regard de la nouvelle crise qui a éclaté dans l'ex-grand Bandundu. Vous suivrez également le cri d'alarme de la patronne du HCR RDC. Nous irons aussi au Maniema, dans cette province qui comptait parmi celles où le taux de mortalité maternelle était le plus élevé. Les efforts du gouvernement, appuyés notamment par UNFPA, commencent à produire ses effets. En 5 ans, ce taux a été divisé par 3. Tels sont les titres de ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Une fois encore, bonjour. La mission des Nations Unies en RDC continue d'appuyer les autorités congolaises dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle. C'est ce qu'a déclaré Bintou Keïta à la 51e session du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue mardi 4 octobre 2022 à Genève en Suisse. La représentante spéciale et chef de la MONUSCO a également appelé les populations congolaises à s'engager massivement à participer aux consultations populaires lancées dans le cadre du processus de cette justice transitionnelle. Écoutons un extrait du message de Madame Bintou Keïta.
Dans le domaine de la justice transitionnelle, nous avons continué d'appuyer les autorités nationales pour la mise en œuvre du processus à travers le pays. Des consultations populaires ont été lancées dans 7 provinces et les sensibilisations se poursuivent, à la fois dans les provinces affectées par le conflit et à l'ouest du pays. Je réitère mon appel aux populations congolaises à s'engager massivement à participer à cet exercice, de prêter leur voix et d'exprimer leurs aspirations en matière de vérité, justice, réconciliation et des garanties de non-répétition pour réponse durable aux causes du conflit. Une mise en œuvre rapide de la justice transitionnelle simultanément au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS permettra de se tourner résolument vers la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de tous les Congolais. Bien que de solides avancées ont été enregistrées depuis le dernier dialogue interactif, la situation continue d'être préoccupante, en particulier en raison de la persistance de l'insécurité à l'est du pays.
MONUSCO encore, au Nord Kivu, 16 conteneurs bien aménagés et dotés d'un système d'énergie solaire ont été remis au FRDC par le service des Nations Unies de lutte anti-mine UNMAS. Ces conteneurs sont installés dans le camp militaire Mambango à 9 km au sud de la ville de Beni. Marc Maro Fimbo pour plus de détails sur cette dotation.
Dans ces premiers lots, 14 de ces conteneurs vont servir pour la conservation des matériels stratégiques des forces armées de la RDC à Beni. Les deux autres serviront pour le bureau de gestion de ce matériel. Jacob Berijo, chargé des opérations de UNMAS au sein de la MONUSCO, revient sur l'objectif de cette dotation.
Ce sont des conteneurs que la MONUSCO a dotés pour la FRDC au niveau de Mambango parce que c'est un endroit bien sécurisé et c'est dans les cas militaires. Les militaires vont bien garder ça eux-mêmes et ça pas épargner la population au cas où il y avait un accident ou quelque chose comme ça qui pourrait arriver, la population sera sécurisée.
Pour le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, le capitaine Anthony Malouchai, cette dotation prouve la bonne collaboration entre l'armée et ses partenaires de la MONUSCO dans le cadre des opérations militaires dans cette région.
Ça montre vraiment qu'il y a une bonne collaboration entre nous et UNMAS qui vient de nous doter des abris pour loger nos matériels purement stratégiques au camp Mambango. Cela montre vraiment que l'armée congolaise FRDC est en bonne collaboration avec ses partenaires.
À l'étape actuelle, les toitures métalliques sont en cours de fixation sur ces premiers lots de conteneurs, ainsi que l'installation des systèmes d'électrification solaire. Le prochain lot d'ajout interviendra incessamment, a indiqué Jacob Berijo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Direction Maniema maintenant. Cette province comptait parmi les plus affectées du pays par un taux élevé de décès maternels. 330 décès pour 100 000 naissances vivantes selon des statistiques officielles datant de 2015. 5 ans plus tard, ce taux a été divisé par 3, un peu plus de 100 décès pour 100 000 naissances vivantes, fruit des efforts du gouvernement et de ses partenaires, dont le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Pour plus de précisions, suivons ce reportage de Florence Kiza-Lunga.
Au Maniema, plusieurs femmes contactées affirment que le manque du personnel qualifié et des équipements adéquats sont parmi les causes des décès maternels. Témoignage de Madame Alphonsine Bahati, habitante de Kindu.
À ma deuxième grossesse, j'allais mourir, moi et mon enfant. Pourquoi? Parce que lors de mon accouchement, il y a eu des complications qui nécessitaient une intervention urgente. Et l'infirmier qui était là, il a juste forcé l'accouchement, ce qui m'a créé le problème de fistules. Avec cette pathologie, j'ai été abandonnée par toute la communauté. J'ai fait plus de 2 ans sans sourire, mais grâce au financement des Fonds des Nations Unies pour la population, j'ai été réparée gratuitement à l'hôpital général de Kindu. Et dès lors, j'ai retrouvé mes sourires. 2 ans après cette réparation, j'ai eu encore 2 autres fils sans problème, mais par césarienne. C'était selon les conseils des sages-femmes. Vraiment, je comprends que les choses ont vraiment changé dans nos hôpitaux avec la présence des sages-femmes, médecins et matériels.
Le médecin chef des zones de Kindu confirme cette nouvelle tout en montrant les efforts louables du gouvernement et ses partenaires. Docteur Alain Chabani.
Dans les 5 dernières années, dans nos structures sanitaire, en rapport avec la prise en charge des femmes, il y avait certainement les problèmes d'infrastructure, de personnel non qualifié, mais à partir de l'intervention des partenaires, nous avons senti qu'il y a une réduction très sensible. Et cela s'est observé beaucoup plus avec l'appui des partenaires et chapeau bas pour le projet Bomoi avec UNFPA où il y a eu la reconversion des sages-femmes. Ces sages-femmes se retrouvent dans nos différentes structures de responsabilité et nous sentons qu'il y a une réduction très sensible quant à ça.
Présentes dans presque toutes les maternités, les sages-femmes exhortent les femmes enceintes à ne pas rester à la maison avec leur grossesse. Annika Moignan, chef d'unité fonctionnelle de la maternité clinique Mapon.
Chère maman, membre de la communauté, nous les sages-femmes, nous sommes là dans des maternités pour votre prise en charge pendant la grossesse, lors de l'accouchement, voire même 42 jours après accouchement. Vous n'avez pas droit de perdre votre vie en donnant la vie et votre enfant ne peut pas aussi mourir en venant au monde. C'est pourquoi il faut éviter de rester à la maison une fois que vous êtes enceinte. Et d'ailleurs, ici notre partenaire INFPA, chaque fois il nous dote de intrants pour votre bien-être. Et encore, nous avons même des services de planification familiale dans toutes les maternités et ces méthodes, nous les donnons gratuitement.
Engagée, une survivante de fistule obstétricale après sa bonne prise en charge par les sages-femmes, rêve d'exercer ce même métier. Marguerite Sifa, étudiante dans la filière des sages-femmes à l'ISTEM Kalima.
Lors de ma deuxième grossesse, j'ai connu un accouchement dystocique qui a provoqué une fistule vésico-génitale. Après plusieurs souffrances, j'ai été orientée par les sages-femmes de Kindu, où j'ai été opérée sous l'appui de l'INFPA. Ainsi, moi aussi, j'ai le souci d'aider les autres femmes pour lutter contre la mortalité maternelle en devenant sage-femme.
Oui, c'est possible d'éliminer les décès maternels évitables en RDC si et seulement si on met toutes les ressources en place, fait savoir Dr Pierre Chamol, assistant chargé des questions de santé maternelle, néonatale de l'enfant et de l'adolescent à UNFPA. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Autre actualité de la semaine, pour faire face à la crise humanitaire avec plus de 5 millions de déplacés internes et un peu plus de 500 000 réfugiés dans les territoires congolais, le HCR au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait besoin pour cette année de 225 millions de dollars américains. À trois mois de la fin de l'exercice, l'agence onusienne en charge des réfugiés et des déplacés internes n'a pas reçu des bailleurs plus de 50 millions de dollars. La gestion des besoins humanitaires devient de plus en plus difficile, surtout avec la nouvelle crise qui affecte l'ex-Grand Bandundu à la suite des affrontements communautaires. Yaka Teke, la représentante du HCR en RDC, Angèle Dikongwe Atangana, a lancé un cri d'alarme aux partenaires internationaux qu'elle a réunis mercredi dernier au quartier général de l'agence à Kinshasa. Un extrait du message de la représentante du HCR RDC.
J'ai eu l'occasion de visiter quelques opérations sur le terrain, notamment en Ituri, dans le nord Ubangi, au Wele. Et à cette faveur-là, je puis véritablement apprécier la tâche qui est la nôtre comme haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans ce grand pays, la République démocratique du Congo. C'est vraiment de rappeler que nous avons ici une tâche colossale parce que nous avons dans ce pays plus de 520 000 réfugiés. Nous avons bien sûr aussi plus de 5,5 millions de déplacés internes dont nous nous occupons dans le cadre interagence et bien sûr avec le gouvernement dans les provinces de l'Est. Mes équipes sont à pied d'œuvre au moment où je vous parle, à Rutshuru, notamment le site de Rwasa, où nous avons plus de 21 000 personnes qui sont revenues ces derniers jours de l'Ouganda, où elles avaient cherché asile, mais où elles n'ont pas pu s'entendre avec leurs autorités d'accueil sur le site où elles allaient s'établir. Et de ce fait, elles ont préféré revenir vers leur patrie d'origine, la RDC. Nous avons ces personnes-là que nous sommes en train d'installer main dans la main avec le gouvernement, les autorités locales et même les autorités centrales qui ont fait le déplacement pour que ces personnes-là retrouvent une vie quasi normale à leur retour de ce périple au cours duquel elles sont allées chercher asile. Pour moi, véritablement, la RDC est un contexte business unusual. Business unusual, pourquoi ? Parce que c'est une situation d'une magnitude exponentielle. C'est une situation complexe, de par les causes diverses des déplacements internes comme les déplacements vers l'extérieur. Et pour moi, l'appel que je lance véritablement aux partenaires, que ce soit les agences sœurs, que ce soit les partenaires techniques et financiers, comme on les appelle, les bailleurs de fonds pour nous, que ce soit surtout le gouvernement, c'est véritablement que la RDC doit être le pays où nous mettons en œuvre ce qu'il est convenu d'appeler le nexus, où nous devons véritablement mutualiser nos énergies, nos synergies, nos ressources, pour faire une œuvre utile parce que il y a de la place pour tous. Et pour nous, HCR, nous venons en soutien au gouvernement avec nos partenaires pour pouvoir mettre en œuvre le mandat de la protection internationale et de la recherche des solutions durables pour les réfugiés qui se retrouvent ici ou alors ceux-là qui sont déplacés, forcés à l'intérieur.
Magazine des Nations Unies. Décryptage.
L'expression système alimentaire désigne l'ensemble des étapes nécessaires pour nourrir une population. Ces étapes sont cultiver, récolter, conditionner, transformer, transporter, commercialiser et consommer. Dans un entretien accordé à Radio Kapi, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, Aristide Ongone-Obame, a justement parlé des systèmes alimentaires qui ont fait recette dans certains pays du monde. Il a aussi insisté sur le financement et la priorisation de l'agriculture en RDC comme conditions essentielles pour renforcer le système alimentaire congolais. Aristide Ongone-Obame répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Aristide Ongone-Obame, bonjour.
Oui, bonjour.
Que peut-on retenir des systèmes alimentaires ?
très simplement, les systèmes alimentaires, dans un premier temps, on va commencer par regarder les étapes. Les étapes du système alimentaire, c'est toutes ces étapes qui concourent à la bonne alimentation d'une population. On part de l'étape de la culture, comment cultiver. Pendant cette étape, on va arriver à ce qu'on appelle la récolte. Après la récolte, il y a le conditionnement. Le conditionnement, après, va suivre la transformation, le transport, la commercialisation et la consommation. C'est toutes ces étapes-là qui composent ce qu'on appelle le système alimentaire, mais il n'y a pas que ça. Pendant ces étapes, on va utiliser un certain nombre d'intrants. Ça peut être des semences, ça peut être des outils agricoles, ça peut encore être des fertilisants ou autres. Et nous utilisons aussi ce qu'on appelle les services, les institutions, pour effectivement voir comment ces systèmes alimentaires fonctionnent. C'est toutes ces interactions. On va aussi regarder l'impact de toutes ces étapes sur l'environnement. Est-ce que ça dégrade la santé de l'environnement? Et c'est tout ça. Il faut que on arrive in fine à produire suffisamment d'aliments sains pour nourrir la population sans dégrader l'environnement.
Nous avons appris qu'un processus d'évaluation du système alimentaire de la République démocratique du Congo a été réalisé par le gouvernement en partenariat, bien sûr, avec l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO que vous représentez ici, et les centres français de recherche agronomique et de coopération internationale, CIRAD en sigle. Quel a été l'objectif de ce processus?
Alors, ce processus, je confirme, il a été mené effectivement avec toutes ces institutions qui ont accompagné le gouvernement de la RDC. Ce processus d'évaluation avait pour objectif de voir pour 50 pays, parce qu'il y a 50 pays qui avaient été retenus, pour parler simple d'état de santé de ces systèmes alimentaires dans ces différents pays. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? On est à quel niveau? Quels sont les défis? Et où est-ce que ça coince? Où est-ce qu'on sont les goulots d'étranglement? Où sont les faiblesses? Et, bon, on va directement aller à la RDC. En RDC, nous avons relevé, premièrement, que malgré le potentiel que vous connaissez, autour de 80 millions de terres arables, tout le monde connaît ce chiffre-là, il est très élevé, nous avons, première chose, constaté que la RDC peine malheureusement à nourrir sa population. L'orientation qui avait été donnée, et à Malabo, par tous les États de l'Union africaine, c'est de mettre au moins 10% de leur budget national pour développer ce secteur. Si nous revenons en RDC, nous sommes aujourd'hui à peine autour de 3%. À peine.
De financement.
De financement dans le secteur.
Mais là aussi, quand vous parlez de financement, je vois non seulement l'État congolais, qui doit dans son budget national prévoir un pourcentage conséquent pour l'agriculture, mais aussi de l'apport extérieur, et notamment de la FAO.
Je vais être franc avec vous. Un pays se développe effectivement avec des apports extérieurs, mais pas seulement avec ça. Aucun pays ne se développe seulement avec des apports extérieurs. Et puis ceux qui viennent comme des partenaires et qui font ces apports extérieurs dont vous parlez, regardent un peu quelles sont les priorités du pays. Les gens viennent vous appuyer en fonction des priorités que vous indiquez. Un pays est souverain. Un pays écrit son développement. Et les partenaires viennent l'accompagner. Ce n'est pas les partenaires qui viennent décliner une politique de développement d'un secteur. Par conséquent, le début, c'est est-ce que le secteur agricole est prioritaire? Si oui, c'est là où vous aurez beaucoup d'apports extérieurs. Sinon, mais pourquoi voulez-vous que les partenaires viennent investir dans un secteur qui n'est pas prioritaire pour vous? Alors, l'indication, c'est ce niveau, cette orientation de 10%, c'est ça qui va nous dire, en tant que partenaire, que ce secteur est prioritaire. Mais tant qu'on est à 1, 2, maximum 3%, et quand on regarde le budget du pays, c'est clair que, dans les faits, ce n'est pas encore prioritaire.
Ouvrons la page de nos nouvelles en bref avec ce communiqué de la MONUSCO à la suite de la mort d'un casque bleu tué dans la nuit de vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2022 lors d'une attaque de la base opérationnelle de la mission à Minembwe au sud Kivu. Dans ce communiqué, la MONUSCO a condamné cet acte et appelé les autorités congolaises à déployer les efforts pour que les auteurs de cette attaque répondent de leurs actes. La MONUSCO a également rappelé que les activités de désarmement des combattants menées par elle sont mandatées par le Conseil de sécurité de l'ONU et conduites de manière impartiale sur une base volontaire. Autre appel, volet humanitaire, c'est celui du coordonnateur humanitaire à la mobilisation des acteurs pour apaiser les tensions et soutenir les personnes affectées par les violences dans le Kwilu et le Maïndombe dans l'ex-Grand Bandundu. Bruno Le Marquis a appelé à la prise des mesures urgentes pour enrayer l'escalade de la violence et apporter une réponse d'urgence dans ces deux provinces. Volet judiciaire pour terminer, ouverture du procès en appel des présumés assassins des experts de l'ONU à la haute cour militaire. C'est le lundi 3 octobre que la première audience a eu lieu. Ce procès concerne 51 prévenus qui ont été reconnus coupables de crimes de terrorisme, crimes de guerre, meurtre, participation à un mouvement insurrectionnel et condamnés à mort par la cour militaire de l'ex-province du Kasaï occidental dans son arrêt rendu le 29 janvier 2022.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies vous propose ce dimanche comme invité le chef d'antenne Sud Kivu du Fonds Social, Patrice Bekembe. Son entretien tourne autour des ouvrages scolaires et sanitaires réalisés les 4 derniers mois dans la ville de Bukavu dans le cadre de la mise en œuvre des projets STEP 2 financés par la Banque mondiale. Patrice Bekembe répond aux questions de Jean Kassami.
Monsieur le chef d'antenne du Fonds Social Sud Kivu, Patrice Bekembe, bonjour.
Bonjour.
Depuis lundi passé, vous êtes en train de procéder à la remise des ouvrages réalisés par le Fonds Social ici au Sud Kivu. Vous faites donc la remise des ouvrages aux bénéficiaires.
Il s'agit des écoles et des centres de santé que nous sommes en train de remettre dans le cadre de la mise en œuvre du projet STEP 2, qui est financé par la Banque mondiale et piloté par les Fonds sociaux de la République.
Il s'agit en général d'une vingtaine d'ouvrages. Est-ce que ce sont les centres de santé qui priment sur les écoles?
C'est plutôt les écoles qui priment. Sur les 20 ouvrages réalisés, nous avons 15 écoles et 530. Nous avons réalisé ces infrastructures dans 4 mois. Vous pouvez imaginer le travail de titans bâti par les Fonds sociaux de la République. Ces infrastructures ont été lancées au mois de novembre 2021 et aujourd'hui, on les a remis à moins d'une année, réaliser 20 infrastructures dans la ville. Quelque chose de jamais vu parmi les agences d'exécution du gouvernement. Mais avec l'appui de la population, avec l'appui du gouvernement provincial, avec l'appui de tous les acteurs de la mise en œuvre et surtout de la population qui s'en est appropriée, on s'est permis d'atteindre ces résultats qui est le fruit de la synergie des efforts de tous.
Partout où nous sommes passés, il y a satisfaction. Par exemple, à Kadutu, d'où je viens, on dit que les bâtiments, c'est vraiment flambant neuf, les toilettes aussi. Mais les parents déplorent le fait que les anciennes toilettes ne reflètent plus l'image des toilettes nouvellement construites par les fonds sociaux et souhaitent que les fonds sociaux puissent achever l'ouvrage.
Effectivement, quand venez satisfaire un besoin, il en crée un autre. Et c'est ce qui est inhérent même à la nature humaine. Donc, aujourd'hui, les écoles que nous avons construites, nous sommes d'abord nous-mêmes surpris du nombre d'élèves aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement. Il y a certaines écoles qui nous demandent d'augmenter le nombre de salles de classe, d'autres encore demandent de faire des clôtures. Nous avons pris ces besoins en compte et nous avions demandé à ces communautés d'être un peu patientes dans la mesure où, pour les financements actuels, et au moins ils ont des besoins qui sont satisfaits. D'autres en cherchent encore, mais dans le cas des prochains financements, pourquoi ne pas revenir? Il y a des écoles qui avaient bénéficié du financement du STEP 1. Aujourd'hui, elles sont encore bénéficiaires du financement du STEP 2 parce qu'il y a celles-là qui avaient un nombre de classes assez élevé, alors que les standards pour nous, c'est 600 de classes, un bureau administratif, le banc et les sanitaires. Et aujourd'hui, elles sont bénéficiaires encore de 6 autres salles de classe et cela a satisfait à leur demande. Nous sommes en train d'aller et de nous déployer maintenant au niveau de l'intérieur.
Le STEP 1 était plus orienté à l'intérieur de la province. Est-ce que pour le STEP 2, c'est le cas ou c'est seulement la ville et ses périphéries qui sont privilégiées?
Non, je pense que c'est l'ensemble de la province. Puisque les critères, c'est lesquels? Ce sont des projets communautaires que nous sommes en train de réaliser pour ce qui est de la composante 1, la résilience communautaire. Au niveau des villes, l'unité communautaire qui est considérée, c'est les quartiers. Au niveau des territoires, l'unité communautaire, c'est le groupement. Et pour le cas du CEPD, si le 8 territoires qui composent la province, il y a 7 qui sont dans le projet. Donc, Uvira, Mwenga, Kabare, Idjui, Calais, Fizi aussi est dans le projet. Tous ces territoires-là, en dehors du territoire de Chabunda.
Comment expliquer que les 7 territoires de la province bénéficient du projet, sauf le territoire de Chabunda?
Le cas de Chabunda est un peu particulier. Nous avons ici les notabilités qui sont venues ici. C'est un problème lié à l'accessibilité. Mais en tout cas, les notabilités de Chabunda sont venues nous voir pour plaider pour qu'eux aussi soient intégrés dans le projet. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on puisse aligner 7 sur 8 et qu'ils soient exclus. Et ils nous ont proposé une voie pour laquelle nous pouvons utiliser pour atteindre Chabunda, c'est vers le Maniema, par Kindu. On leur a dit, bon, nous, à notre niveau, nous sommes des unités opérationnelles. Nous allons transmettre leur plaidoyer au niveau de nos autorités, au niveau de la hiérarchie, au niveau central. Et qui voient ici, il y a possibilité, comme ils nous ont proposé, de passer par le Kindu, si les matériaux peuvent être acheminés. Puisque nous sommes en train de construire en dire, vous savez qu'il sera difficile d'acheminer les ciments à partir de Bukavu pour arriver à Chabunda. Mais la voie qu'ils nous proposent, nous-mêmes aussi, on ne l'a pas encore explorée, mais leur plaidoyer sera transmis à notre hiérarchie pour qu'à ce niveau du management stratégique, ils puissent étudier et voir ce qui peut être fait.
Je vous dis merci.
Restons encore dans la province du Sud Kivu. Une trentaine de professionnels des médias ont pris part à un voyage de presse de 4 jours organisé par le Bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO Sud Kivu. L'objectif de cette activité était d'amener les journalistes locaux à palper du doigt les actions de la mission onusienne afin de les couvrir et les relayer auprès de la population de cette province, dossier de Fiston Ngoma.
Ils ont été sélectionnés pour réaliser une série de reportages terrain sur les différentes actions de la MONUSCO dans les régions. Ibrahim Ibia Ombe de la RTNC Baraka.
Nous avons fait au moins les tours dans la ville. On a mené des interviews avec les autorités locales, avec les déplacés, des personnes qui sont des vulnérables. Ça nous édifie.
Avant l'étape de Baraka Fizi, les professionnels des médias de la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira et de Walungu ont échangé avec le bénéficiaire des projets de la MONUSCO dans ces zones, Hassan Chabani de la radio Flash FM Kamanyola.
Moi-même, je ne savais pas que la MONUSCO est en train de réaliser de telles choses dans le territoire d'Uvira. J'ai été surpris de voir la construction d'un bureau de la police, la construction du bureau administratif de la cité des Sangue. Vraiment, chez moi, vraiment, ça m'impressionne. Je vois que la MONUSCO vraiment est là et fait beaucoup de choses à l'intérêt de notre population.
Nicole Mouchi est journaliste à la radio L'Essentiel de Bukavu. Pour la première fois, elle découvre Uvira et Baraka Fizi, cette région où la MONUSCO existe depuis une dizaine d'années. Au-delà de tout entendement, les quelques projets visités lui donnent des frissons.
Ce qu'ils ont fait à la prison d'Uvira, avec le biogaz là qui permet aux prisonniers de se procurer à manger facilement, en tout cas c'est une bonne chose qui m'a beaucoup plu. Mais aussi, ce qu'ils ont fait à Bouéguer, économiquement, je trouve que c'est bon la laiterie là, parce qu'ils peuvent vendre du lait facilement et se procurer de l'argent.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Retenez dans vos agendas quelques dates pour la semaine qui commence. 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale. 11 octobre, journée internationale de la jeune fille. 15 octobre, journée internationale des femmes rurales. Et enfin, 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. C'est déjà la fin de cette émission. Vous pourrez la réécouter sur le site www.radiookapi.net. Radio Okapi en un mot. Merci de votre attention. Merci également à Polider Onoki Basungo qui en a assuré la coordination technique. Je suis honoré Missenga Kalala. C'est avec un grand plaisir que j'ai produit, coordonné et présenté cette émission. Priscille Kabeya était à la réalisation. Restez toujours à l'écoute de la Radio de la Paix pour la suite de nos programmes et toute l'équipe du magazine des Nations Unies vous fixe un nouveau rendez-vous dimanche prochain. Ciao.